Tendance RH en partenariat avec Jobsphérique.
Bonjour, bienvenue dans Tendance RH. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Eric Singler, président de BVA Nudge Unit. Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors, je vous ai invité aujourd'hui pour que vous nous parliez du nudge. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, le nudge, c'est tout d'abord un mot qui veut dire coup de pouce en anglais. Et en fait, c'est le titre d'un livre publié par quelqu'un qui est professeur à l'Université de Chicago. Son nom, c'est Richard Taylor et qui a publié un livre en 2008 qui s'appelle Nudge. L'objectif du nudge, c'est simple, c'est il y a un comportement A, je veux encourager, c'est un mot qui est très important en nudge, je veux encourager l'adoption d'un comportement B, d'un nouveau comportement, qui est en fait bénéfique pour l'individu, la communauté ou la planète. Donc en fait, c'est une théorie qui s'inscrit dans 40 ans de recherche, dans ce qu'on appelle les sciences comportementales, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui influence les humains dans leurs décisions et leurs comportements. Et c'est du fait de cette compréhension approfondie de ce qui nous influence qu'il est possible, et c'est ça le nudge, de développer des actions qui vont changer notre environnement physique, notre environnement psychologique, mais aussi les process en entreprise, de manière à inciter les individus, à les encourager à adopter de nouveaux comportements. Alors ça peut être des comportements très divers.
Alors c'est essentiellement au départ les gouvernements qui se sont intéressés au nudge. Pouvez-vous nous dire qui a vulgarisé aussi cette approche et quel est l'état actuel dans le monde ? Est-ce que les gouvernements s'emparent de cette approche théorique ?
Alors, tout à fait. Le livre, donc, je vous le disais, est sorti en 2008. En 2009, Barack Obama était le premier à s'intéresser au nudge parce qu'il était assez proche du co-auteur de nudge. Ils sont deux, Richard Taylor et Cass Sunstein, qui est professeur de droit à l'université d'Harvard. Barack Obama était l'un des premiers lecteurs de nudge. Quand il a été élu en 2009, il a demandé à Cass Sunstein de rejoindre la Maison Blanche pour diriger l'Office d'information et de régulation des politiques publiques aux États-Unis pour appliquer le nudge. Donc ça a été le premier et à partir de là, il y a eu une diffusion très large. Tout d'abord dans le monde anglo-saxon, en 2010, c'est David Cameron qui a été le premier à vouloir créer ce qu'il a appelé la Behavioral Insight Team, que les journalistes ont appelé la Nudge Unit. C'était 7 personnes, c'est maintenant 190 personnes qui sont chargées d'optimiser les politiques publiques en Grande-Bretagne pour les rendre plus efficaces. À partir de ce point de départ, maintenant, le CDE vient de publier une carte qui recense l'ensemble des initiatives utilisant le nudge et les sciences comportementales, et c'est plus de 200 institutions. Il y a le Canada, Singapour, le Japon, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, le Qatar et maintenant la France.
Mais quels sont les leviers d'action ? Concrètement, est-ce que vous avez des exemples concrets ?
Oui, je vais vous donner des...
Que font-ils pour mieux comprendre les comportements et mettre en phase des politiques publiques qui correspondent aux attentes ou qui puissent engager les citoyens ?
Voilà, je vais vous donner des exemples très concrets. Mmh. Un exemple qui a été... conduit par justement cette Nudge Unit du gouvernement de David Cameron. En 2013, il s'agissait d'encourager les individus à adhérer à des programmes de dons d'organes. Parce qu'il y a des morts tous les jours en Grande-Bretagne, comme dans beaucoup de pays, par manque de dons d'organes. Donc la manière classique, c'est de faire de la communication, de dire, et c'est ce que faisait le gouvernement anglais, il utilisait une page gov.uk, la dernière page de son site internet, en disant si vous aviez un problème, vous seriez content d'avoir des solutions, donc adhérer à un programme de don d'organes. Ce qu'a fait l'équipe Nudge Unit, c'est changer deux petites choses sur cette page. Une première chose, c'est mettre un petit logo rouge de l'organe de don, pour l'organisme de don, pour en fait attirer l'attention pendant une seconde et lire une phrase qui est juste à côté qui disait « Chaque jour, des milliers de personnes qui voient cette page décident d'adhérer ». Quand vous lisez cette phrase, en fait, ça change votre état d'esprit. Vous vous sentez partie de la communauté, vous avez plutôt l'intention d'être bien avec votre communauté et de savoir que la norme, que des milliers de personnes le font, ça vous encourage. Testé par le gouvernement anglais, le potentiel de dons supplémentaires, en mettant un jour sur deux un site ou l'autre, une page ou l'autre, c'est annuellement 96 000 donateurs supplémentaires. Donc juste avec un petit changement, on crée une incitation qui est beaucoup plus puissante. Le secret du nudge, ce ne sont pas simplement des petites idées, c'est en fait des idées qui activent des leviers d'influence, en l'occurrence les normes sociales. Nous sommes des êtres éminemment sociaux. Ce que font les autres, ce que disent les autres, ce que pensent les autres, c'est très important pour nous. Et donc de lire cette phrase, ça va activer, nous motiver très fortement à adopter le comportement désiré. Donc les nudges, c'est toujours des petites choses, mais qui ont ce paradoxe de pouvoir créer des gros changements comportementaux.
D'accord, donc c'est toute une réflexion en amont.
Tout à fait.
Pour prévoir une chaîne d'action, de petits leviers d'action.
Exactement.
Pour arriver à un objectif. Alors, comment les entreprises peuvent s'emparer du nudge aujourd'hui? Alors, et est-ce qu'elles s'en emparent?
Oui, alors tout à fait. Le nudge, la promesse, le bénéfice du nudge, c'est être efficace dans les changements comportementaux souhaités à partir d'actions qui sont souvent petites, donc dont le coût est faible. Donc, le grand miracle du nudge, c'est un ROI qui est souvent très puissant. Alors bien sûr, les gouvernements, avec leurs contraintes budgétaires et leurs souhaits d'efficacité, sont en recherche de cette efficacité, de ce ROI, mais également les entreprises. Donc à partir des années 2013-2014, sous l'influence, il y a maintenant 6 prix Nobel qui se réclament de l'économie comportementale, des sciences comportementales, et qui ont fait du prosélytisme en rejoignant des grandes manifestations pour exposer leurs idées. Donc, les entreprises, dans les 6 derniers mois, j'ai travaillé sur la BVA Nudge Unit avec plus de 50 entreprises utilisant le nudge dans 2 directions, soit pour encourager leurs clients, consommateurs, patients, par exemple, comment faire en sorte que des patients soient observants de leur traitement pour leur bénéfice personnel. Donc c'est soit en direction, ce qu'on appelle le nudge marketing, soit en direction de leurs clients, pour les encourager à prendre des décisions qui sont bonnes pour le business, mais bonnes pour les intérêts long terme de l'individu, ce qu'on appelle le nudging for good, mais également en interne, puisque le nudge est un outil très très puissant pour encourager l'adoption de comportements bénéfiques en interne, coopérer, innover, apprendre, accompagner des plans de transformation ou aider à réduire les problématiques de sécurité au travail ou un autre gros sujet qui est l'égalité homme-femme et le sexisme en entreprise. Donc comment, à partir de la compréhension de ces leviers d'influence des comportements, on peut co-créer avec les collaborateurs, puisque en nudge on est toujours en co-création, des idées qui vont modifier fondamentalement leur comportement au bénéfice individuel et au bénéfice collectif.
Donc en fait, on peut dire, pour résumer, que le nudge peut être appliqué pour favoriser l'engagement.
Oui, tout à fait.
Peut être appliqué en matière de RSE.
Oui, c'est un des gros sujets.
En matière d'équité, d'égalité, etc., peut être appliqué aussi en matière de transformation, peut-être, et de changement des organisations, parce que c'est là les principaux enjeux également, pour arriver à s'adapter au monde qui évolue.
Tout à fait, tout à fait. La notion de changement et d'accompagnement des plans de transformation, vous savez peut-être que McKinsey a publié récemment une étude disant que 70% des plans de transformation sont des échecs.
Évidemment, oui.
Pourquoi? D'un point de vue de sciences comportementales, c'est assez facile à comprendre. Il y a un biais humain, puisque les sciences comportementales ont d'abord travaillé sur l'identification de l'ensemble des biais qui vont influencer nos décisions, il y en a plus d'une centaine, et qui sont des biais systématiques qui nous écartent des bonnes décisions. Un de ces biais, ce qu'on appelle le biais de statu quo. Nous n'aimons pas le changement, y compris s'il est mineur, y compris si la nouvelle voie est clairement plus favorable. Donc il faut partir du constat que simplement informer, convaincre des êtres humains qui ne sont pas aussi rationnels que ce qu'on peut, n'est pas suffisant pour les amener à changer, pour leur donner envie de changer. Donc on part de ce constat en nudge et on va co-créer un environnement qui va donner envie aux individus, aux collaborateurs, non seulement d'accompagner le changement, non seulement de ne pas y résister, mais au contraire d'y contribuer, parce qu'on va être capable de leur faire comprendre et de créer un environnement, nous on appelle ça une architecture de choix, qui va leur donner envie sur le long terme.
Alors justement, puisque vous parlez d'architecture de choix, excusez-moi,
oui.
Est-ce que vous pensez que les nouvelles plateformes, les workplaces, etc., sont des outils qui sont favorables ou utiles pour favoriser l'engagement et mettre en place comme ça des stratégies d'engagement ?
Alors oui, je pense que tout ce qui rompt l'isolement, tout ce qui permet la communication, c'est absolument fondamental. Une professeure d'Harvard qui s'appelle Amy Edmondson a publié un livre formidable qui s'appelle Teaming, comment créer de l'esprit d'équipe en dynamique dans les entreprises pour être beaucoup plus puissant à la fois en termes d'innovation, en termes d'engagement. Et les outils, tous les outils qui contribuent à ça permettent en fait plus d'engagement. Parce que les gens se sentent dans une communauté. La notion de camaraderie, la notion de communauté est fondamentale.
Merci beaucoup, c'était vraiment très enrichissant. Merci. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Au revoir, merci Monsieur Sinclair, au revoir.
Merci.
Tendance RH, en partenariat avec JobSphérique.